Louis Armstrong nous le répète à loisir, What a wonderful world, quel monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et on voudrait y croire à ce monde wonderful, ce wonderful world. On voudrait y croire que les arbres verts et les roses rouges, et il le dit dans sa chanson, Louis Armstrong, que je les vois fleurir pour moi et pour toi. Et je me dis, quel monde merveilleux. Je vois le ciel bleu et les nuages blancs, la lumière des jours et l'obscurité des nuits. Et je me dis, what a wonderful world. Des couleurs de l'arc-en-ciel, si belles dans le ciel, mais aussi sur le visage des gens qui passent. Je vois des amis se saluer et se dire, comment ça va? Ils se disent en réalité, je t'aime. J'entends des enfants crier et je les vois grandir et ils apprendront plus que je ne saurais jamais. Quel monde merveilleux, what a wonderful world. Et on a envie d'y croire à tout ça. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu de tout cela dans le monde. Il y a des arbres verts, il y a des roses rouges, il y a des gens qui s'aiment. Mais quand on y regarde de plus près dans ce monde, son soi-disant wonderful world, on a envie de mettre des bémols dans la mélodie de Louis Armstrong. Au début, au commencement, dans la Genèse, à la création, on pouvait le dire. What a wonderful world. Et d'ailleurs, Dieu le dit, on l'a vu hier matin lors d'Aventure Formation, il y a un refrain qui parcourt la création et les jours de la création. Tout était très bon. Tof, en hébreu et en bruxellois aussi. Tof, ça veut dire bien. Quand on dit, oh c'est tof en Bruxelles, à Bruxelles, ça veut dire c'est chouette. Eh bien, Dieu le dit, chaque jour de la création, tout était très chouette, tout était wonderful. Et puis, le mal est entré dans le monde de façon inattendue, de façon inexplicable et de façon surtout injustifiable. On ne peut jamais justifier le mal. Mais il est arrivé et depuis lors, le monde n'est plus aussi wonderful. Il reste des belles choses, l'humanité est capable de belles et bonnes choses. Yvonne et moi, on a été voir il y a 2-3 ans, ou au milieu du Covid, je ne sais plus, une sorte de cirque du soleil à Nice, au centre Nikaya. C'était magnifique. De la musique, de la danse, des acrobaties. Les hommes et les femmes sont capables de faire des choses prodigieuses. On voit aussi des personnes, des groupes, des ONG qui sont capables de faire des tellement bonnes choses à l'égard de leurs prochains. Mais il y a des bémols dans ce wonderful world. Et l'actualité nous le montre aujourd'hui. Des fameux bémols. Et Paul, dans sa lettre à Timothée, jeune responsable de l'église d'Éphèse, va aussi mettre des bémols dans le monde de Timothée. Et nous faisons une série de prédications sur cette deuxième lettre que Paul adresse à Timothée. Il est à la fin de ses jours, c'est une sorte de testament spirituel. Il ne va pas écrire d'autres lettres après cela, il va mourir en prison, je parle de Paul. Et la dernière fois, nous avons parlé de la défense contre l'erreur en ce qui concerne la foi. Et Paul continue un petit peu dans la même veine au chapitre 3 que nous allons lire ensemble. Et je vous préviens, ce n'est pas très joyeux. C'est un peu difficile et on veut garder en tête tout ce que nous a dit Yvonne sur la joie. Mais voilà, 2 Timothée 3, versets 1 à 9. Sache bien que dans les derniers jours, les temps seront difficiles, les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leurs passions et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons, ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. De même qu'autrefois, Jannès et Jambres, alors ce ne sont pas des personnages bibliques, mais ce sont des noms qu'ont donné la tradition juive aux magiciens à la cour de Pharaon qui se sont opposés à Moïse et à Dieu par la même occasion. Jambres et Jannès, c'est selon la tradition juive. Ils s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi, mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces deux hommes. Ils parlent des magiciens. C'est pas très encourageant ce dimanche matin. Le monde dans lequel vivent Paul et Timothée n'est pas un wonderful world. C'est un monde peuplé de gens, à la mine patibulaire mais presque, comme le disait Coluche à l'époque. Mais avant de voir comment ce bilan assez sombre de l'humanité pourrait nous être utile, il y a deux questions auxquelles nous devons répondre, il me semble en tout cas. Quels sont ces derniers jours ? Sache que dans ces derniers jours, les temps seront difficiles. Et Paul utilise le mot « eschatos » en grec, qui veut bien dire « dernier », les derniers jours. Eschatos, qui a donné le mot eschatologie, qui est l'étude des fins dernières qu'on donne, c'est une matière qu'on donne dans les instituts bibliques ou à la faculté de théologie, l'eschatologie, il faut bien le prononcer, eschatologie. Mais ce mot pourrait prêter, le mot eschatos pourrait prêter à confusion ce mot dernier et nous faire penser que Paul a en vue ici les quelques jours avant le retour de Jésus-Christ, les tout derniers jours. Mais quand la Bible parle des derniers temps, il s'agit du temps présent, du jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire toute la période qui s'écoule entre l'ascension de Jésus-Christ, qui a déjà eu lieu après la résurrection, et le retour de Jésus-Christ, ou qu'on appelle la deuxième venue de Jésus-Christ, ou la parousie de Jésus-Christ. Et toute cette période est appelée les derniers jours. Et la Bible, dite du semeur, parle de la période finale. Alors ce sont les derniers jours parce que tout est déjà accompli en Christ à la croix et par sa résurrection et il ne reste plus que sa deuxième venue, la consommation finale que nous attendons activement, pas passivement mais activement et ça ce sera le dernier acte de l'histoire du salut. Mais avant cela, dans toute cette période, il y a la naissance de l'Église dans le livre des Actes, le Moyen-Âge, la Révolution française, les deux guerres mondiales, la réforme des retraites. Tout cela se situe dans les derniers jours. C'est dans le temps présent. Et Paul nous dit que dans ces derniers jours, il le dit à Timothée, il se passe des choses. Et Pierre va le dire aussi. Et dans 2 Pierre 3, il va dire, en utilisant la même expression, « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule. » Et Jacques aussi, l'autre apôtre en parle en évoquant les riches qui s'amassent des richesses dans ces jours qui sont les derniers. Même expression. Et tous les auteurs du Nouveau Testament nous parlent donc de ces derniers jours qui sont les nôtres aujourd'hui et s'accordent pour dire qu'ils seront caractérisés par un refus de Dieu, par un refus de la seigneurie de Jésus-Christ. Non pas de manière progressive, mais de manière constante. Je ne pense pas que l'humanité va aller de mal en pis. Je ne pense pas qu'elle va non plus s'améliorer. Je pense qu'il y a une constante dans l'incrédulité et dans le refus de Dieu. Alors Paul parle au futur, mais comme le disait quelqu'un, c'est un futur dans lequel Timothée se trouve déjà, puisque le passage lui est appliqué dans sa situation présente. C'est un futur proche, tellement proche que Timothée y est déjà, tellement proche que nous vivons aussi ces derniers jours, ces temps difficiles. Et puis la deuxième question porte sur les gens qui sont décrits au verset 2 jusqu'au 4. Une liste très négative. Alors qui sont ces gens ? Alors ce ne sont pas... Ce n'est pas un individu qui regroupe toutes ses qualités ou tous ses défauts. Il s'agit des gens en général, de cette société en général, la société de l'époque. Alors, on ne va pas développer toutes les caractéristiques de cette société, mais il est intéressant de noter quand même que la liste que nous avons lue tout à l'heure, il y a une certaine structure. Elle est encadrée par deux mots qui parlent d'amour. D'abord, l'amour... Les hommes seront égoïstes, littéralement, s'aimeront eux-mêmes. L'amour de soi égoïste, c'est un petit peu trop faible, c'est plutôt l'égocentrisme, le culte de l'ego, avec une apostrophe, L'EGO, le culte de soi. Et puis elle termine par un autre mot avec le mot amour, l'amour du plaisir et non de Dieu. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Et la société donc dans laquelle se débat le jeune disciple Timothée est une société où règne un désordre d'amour. Il y a de l'amour, mais il y a un problème de direction dans l'amour. Il est dirigé exclusivement vers soi, ce qui, d'ailleurs, qui fait que ce n'est plus un véritable amour, puisqu'il est dirigé exclusivement vers soi-même. Et les autres éléments de la liste montrent les refus, les manques, les oppositions qui découlent de cet amour mal dirigé. Des problèmes relationnels, ingratitude, traîtrise, calomnie, cruauté, et les manques au niveau moral et dans le domaine du caractère, impulsivité, absence de contrôle, orgueil, tout cela découle d'une mauvaise direction de l'amour. Et il me semble que, comme souvent, Paul fait mouche dans cette description et qu'elle traverse sans aucun problème les siècles en ces jours qui sont les derniers. Dans notre monde du shampoing L'Oréal, parce que je le vaux bien, cette description prend une actualité sans précédent. Dans le monde de la redoute aussi, je ne sais pas si la redoute existe encore aujourd'hui, mais il y a quelques années, peut-être 10 ans, Yvonne recevait des courriers de la redoute, et je me souviendrai toujours de ce courrier, c'était écrit en gras, c'est pour ça que je l'avais lu, ça ne me concernait pas, mais la redoute écrivait à Yvonne, mon épouse, « Nous vous écrivons parce que vous êtes une personne formidable. » Ce qui est vrai au demeurant. Mais notre société joue sur l'amour de soi. Parce que je le vaux bien, n'est-ce pas? Vous pouvez m'acheter, vous pouvez acheter à la redoute. Alors il faut un petit peu d'amour de soi, c'est certain. Il ne s'agit pas de se déprécier tout le temps et de se dire « je ne vaux rien, je suis un minable ou je suis un loser ». Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. J'aime beaucoup ce psaume qui dit « Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu ». La prunelle des yeux de Dieu. Notre identité est en lui. Nous avons de la valeur à ses yeux. Même nos cheveux sont comptés, nous dit Jésus. Mais quand cet amour de soi n'a aucune limite, quand cet amour n'a aucune référence à Dieu, quand mon amour se limite à ma propre personne, quand l'amour de ma liberté détruit celle de l'autre, quand l'amour de ma propre personne laisse de côté l'amour du prochain, il y a un gros bémol dans le Wonderful World. Et il ne l'est plus, Wonderful, du tout. Alors, c'est une liste qui n'est pas très réjouissante, je vous l'accorde, quasiment pessimiste, carrément noire. Alors, pourquoi Paul dépeint ce tableau? Pourquoi il le fait pour Timothée, qui est un jeune homme timide, qui est disciple de Jésus-Christ, mais qui a besoin d'être encouragé, de retrouver la flamme du service? On se dit que Paul s'est trompé de couleur, il aurait dû peindre les couleurs de l'arc-en-ciel, comme en parlait Louis Armstrong. Noir, c'est noir. Mais Paul, en bon écrivain inspiré qu'il est, ne se trompe pas de couleur et cherche pourtant à encourager son ami Timothée dans son style, un style que nous pensons inspiré par Dieu. Et le but recherché n'est pas de faire tomber Timothée dans le pessimisme ou le repli sur soi ou le négativisme. Paul cherche au contraire à l'amener à rester fidèle à ses choix antérieurs, à son appel, à son choix de vie pour le Seigneur. Et il me semble que dans cette description sans concession et sans complaisance de notre société en général et en particulier, on peut retirer nous aussi quelques encouragements pour se maintenir dans la fidélité à Dieu. Et le premier but que Paul poursuit en écrivant à Timothée sur ce monde difficile, c'est qu'il puisse le savoir. Le savoir pour ne pas douter. C'est le premier mot. Sache, mon cher Timothée, que dans les derniers jours, ce sera des temps difficiles. Je veux que tu saches, Timothée, que ce monde dans lequel tu te trouves est un monde difficile. Je désire, dit Paul à Timothée, que tu en prennes conscience, que tu comprennes le topo. Je veux que tu le saches pour que tu puisses rester fidèle dans ce monde difficile et dans ces jours difficiles. Le savoir pour ne pas douter. Parce que si on pense que tout le monde il est beau, ou tout le monde il est gentil, on va au-devant de grands dangers. Tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. La vie n'est pas un conte de fées, il y a des orques prêts à vous manger tout cru, comme le Seigneur, comme dans le Seigneur des Anneaux. Il y a de l'opposition et il faut se départir de toute naïveté par rapport à ça. On pourrait croire, en effet, que puisque l'évangile est une bonne nouvelle, que tout le monde va finalement s'y ranger. On pourrait croire que puisque Dieu est la lumière de la vie, tous les êtres vivants voudraient venir se placer sous cette lumière. Mais non. Les hommes restent et resteront opposés à la lumière. Et c'est extrêmement troublant, vous ne trouvez pas ? Mais il faut le savoir. En 2000 ans, j'ai fait un voyage missionnaire au Honduras avec un ami missionnaire qui s'appelait John Wood, Jean Dubois, pour le traduire. Mais lui, il habitait Phoenix, alors je suis passé par Phoenix pendant 2-3 jours. Sous 45 degrés à l'ombre, on a vu, on roulait en voiture, on a vu une voiture pleine d'autocollants, un peu comme en Europe, ça arrive, on voit des voitures, puis on s'est approché, et c'était tout des autocollants satanistes. Satan. Le gars dans la voiture revendiquait son appartenance à Satan. Il y avait un poisson, ictus, mais avec des pattes, pour dire que on venait du poisson. Une voiture manifestement antichrétienne, clairement dans l'opposition à Dieu. J'avais jamais vu ça, et j'ai jamais vu ça depuis. En Europe, il n'y a pas ça. Enfin, c'est plus caché, peut-être. Clairement dans l'opposition à Dieu, et ça m'a troublé. Et vous avez peut-être vos propres rencontres ou vos propres expériences en matière d'opposition et qui ont provoqué des doutes en vous, parce que devant l'opposition, on peut se demander effectivement si l'évangile reste pertinent dans ce monde. Si on a choisi le bon camp, en fin de compte, on s'interroge sur la puissance de Dieu. Qu'attend-il pour s'imposer ? Oui, le doute pourrait s'immiscer parce que on ne savait pas que les derniers jours seraient difficiles et dangereux pour la foi. On était naïf. Mais Paul dit, je veux que tu saches. Paul ne veut pas que Timothée soit naïf et qu'il se fasse des illusions dans le monde dans lequel il vit. Dieu ne veut pas non plus que nous soyons naïfs dans ce 21e siècle. Et il nous dit, sachez que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Et le terme grec pour difficile veut dire périlleux, dangereux, malfaisant, avec une nuance d'acharnement, dit un commentateur. Dangereux pour la foi. Un bon disciple de Jésus-Christ est un disciple averti. Il a conscience que l'opposition sera persistante et acharnée. Et il sait aussi que dans ce monde-là, difficile, il est appelé à vivre et à relever le défi d'une vie à la gloire de Dieu. Une vie courageuse pour le Seigneur, dans ce monde à risque. Et puis, une deuxième recommandation qui vient un petit peu plus tard, sous la forme d'un impératif, éloigne-toi de ces gens-là, parce qu'il y avait des personnes dans l'église d'Éphèse ou à la périphérie de l'église d'Éphèse qui posaient vraiment problème. Et Paul décrit donc ce monde sans Dieu, centré sur lui-même, et conseille à Timothée de s'en éloigner pour ne pas glisser. Alors, vous savez, quand on lit une liste d'adjectifs sympathiques comme on a lu tout à l'heure, on peut avoir deux réactions. Et la première réaction, la plus fréquente, est de penser tout de suite à son collègue égoïste, qui suit ses passions, qui est cruel, etc. Ou son voisin, qui est un peu tout cela à la fois, ou à son mari égoïste, comme on n'en fait pas, ce qui est vrai parfois. Mais la deuxième réaction, beaucoup moins fréquente, est dans un moment de grande lucidité et d'honnêteté, penser à soi. Et se demander si sur certains points, je ne pourrais pas me reconnaître dans ces adjectifs. Amour de soi, exclusif, égoïsme, centré sur l'argent, l'amour du plaisir plus que Dieu. Et si je ne me reconnais pas dans ces adjectifs, je reconnais ad minima qu'il existe un risque réel que je puisse glisser vers ces attitudes ou ces comportements dangereux. Et si je me laisse aller, si je laisse mon inclination naturelle vers le mal reprendre le dessus, si je laisse mon ancienne vie, comme dit la parole, reprendre ses habitudes, il y a un risque de glissade, de dérapage incontrôlé. Et parce que nous sommes des gens à risque, comme Timothée, Paul nous exhorte à faire attention et à nous éloigner de ces gens, de mettre de la distance. Je me souviens à une rencontre des protestants de l'Orléanais, ça s'appelait le RPO, le Rassemblement protestant de l'Orléanais. Il y avait 300 ou 400 personnes, c'était chouette, mais il y avait un temps de prière et on se souvient qu'il y a un enfant de 10 ans qui a commencé, qui a prié et qui a dit « Seigneur, je ne m'assieds pas en compagnie des moqueurs et des méchants. » Et on a tous rigolé, mais c'était le psaume 1, donc il citait la Bible. « Je m'éloigne des gens dangereux. » Alors ce genre de conseil pourrait paraître assez sectaire. Hein ? On pense à certaines sectes qui demandent à leurs adeptes de rompre avec la société, mais aussi avec leur famille, pour mieux les manipuler à l'intérieur du groupe. Et il ne s'agit pas de cela. Il faut contrebalancer cet encouragement à l'éloignement des méchants avec l'appel fort, constant, incontournable, lancé par Jésus et les apôtres, de demeurer dans le monde. Non pas à la périphérie du monde, non pas à la frontière du monde, non pas replier sur nous-mêmes dans une sorte de ghetto chrétien, d'où on tenterait quelques sorties dans le monde, mais être, nous dit Jésus, être bien dans le monde, et d'être dans ce monde une lumière qui reflète la lumière, d'être dans ce monde sans saveur, du sel qui donne du goût, et vous avez reconnu le sermon sur la montagne, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Et Jésus nous dit, allez dans tous les recoins de la terre, même les plus sombres, pour témoigner de la lumière de Christ. Allez saler, mettre du sel dans tous les plats, même les moins ragoûtants qui soient, pour que tous puissent reprendre goût à la vie. Le disciple de Jésus-Christ est un disciple, est un chrétien de proximité, proche des gens, qui s'approchent, qui demeurent proches de ce monde, aussi difficile soit-il. Mais un disciple, quand même, qui fait attention à ne pas glisser et qui, à un moment donné, devra peut-être s'éloigner pour ne pas glisser. J'avais 16-17 ans et j'avais un ami avec qui je faisais les 400 coups, ou 200, pour ne pas exagérer. Et j'étais déjà chrétien, mais j'étais encore un petit peu fragile dans ma foi. Et lui venait au groupe de jeunes, mais il n'était pas très intéressé. Mais ce gars-là, il s'appelait Christophe, il était très cool. Il était vraiment très, très cool. Il est vraiment très libre. Et j'aimais bien le voir, mais je me sentais avec lui glisser tout doucement vers un endroit, vers une sorte de terre inconnue où je ne voulais pas aller. Mais je me sentais glisser et j'étais en même temps attiré. Et je me suis éloigné de lui. Je lui ai pas dit, écoute, Christophe, avec toi, je me sens glissé, donc t'es plus mon copain. Mais Christophe n'est plus venu au groupe de jeunes, et la vie nous a séparés, et j'ai pas insisté pour l'inviter, et j'ai pas insisté dans cette relation, parce que j'aurais pu m'y perdre. C'était une relation, ouais, comme on dit aujourd'hui, un peu toxique. Et il faut avoir le courage, peut-être, et l'humilité de le faire. J'ai lu quelque part ce conseil donné aux enfants en cas de bagarre dans la cour de récréation, dans la vidéo, il y avait aussi. Et si quelqu'un veut se battre avec vous, faites ceci, disait la vidéo. Tournez-vous par rapport à celui qui veut se battre avec vous, levez le bras droit et la jambe gauche, et puis après, levez la jambe droite et le bras gauche, et faites ceci. S'enfuir, s'éloigner, se détourner. Et puis, dernier point, faire confiance pour ne pas désespérer. Malgré le ton le moins lourd possible que j'essaie de donner à cette prédication sur ce passage de Timothée, le tableau reste quand même assez sombre et pessimiste. Il faut savoir que les temps sont difficiles. Il faut s'éloigner pour ne pas glisser. Et Paul continue au verset 8 dans la même ambiance. De même qu'autrefois, Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même, ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais il y a le verset 9. Mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces deux imposteurs. Alors, vous allez me dire, où est l'espoir dans ce verset 9? Et il me semble que l'espoir se trouve dans cette promesse qu'un jour, la vérité éclatera. Dans ce rappel de la victoire de la vérité sur le mensonge ou sur l'opposition. Les magiciens de la cour de Pharaon se sont opposés à Moïse et à Dieu, mais leur opposition s'est révélée être une folie. Le peuple est quand même sorti d'Égypte par la main puissante de Yahvé. La rédemption du peuple d'Israël s'est accomplie malgré les gesticulations des magiciens. Et dans ce monde où tout semble fonctionner sans Dieu, où on se passe de Dieu, où même on s'oppose à lui, où tout semble jouer contre lui et contre ceux qui veulent lui faire confiance, et bien dans ce monde difficile et à risque, il faut savoir qu'un jour ou l'autre, la vérité de Dieu se révélera, se manifestera et triomphera, et que le double jeu des uns, l'hypocrisie ou la comédie des autres, l'injustice des uns, l'oppression des autres, tout cela sera mis à jour et découvert. La vérité de Dieu finit toujours par éclater, et si pas dans ce monde, ce sera à la fin, à la toute fin des temps de la fin, au retour de Jésus, où il nous est dit dans Philippiens, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est un verset qui me saisit. Tout genou fléchira, même ceux qui étaient dans l'opposition. Nous serons tous amenés à reconnaître la seigneurie de Christ. Alors il ne s'agit pas pour le disciple de Christ d'être revanchard, d'attendre le jour de la revanche de Dieu, mais de pouvoir vivre dans ce monde difficile et à risque avec cette pensée de la victoire de la vérité. En fin de compte, au bout du compte, la vérité du choix de l'amour de Dieu plutôt que l'amour de soi sera manifestée. Il nous faut vivre avec cette pensée-là, bien présente, accrochée à notre cœur fragile, intégrée dans notre vision des choses et de notre vie, une vision qui nous permet de traverser les zones les plus sombres de notre histoire en maintenant la petite lumière de l'espérance chrétienne. Nous sommes un peu comme des parents, avec des adolescents difficiles, qui vivent des temps difficiles dans ces derniers jours, mais qui tiennent. Ils tiennent parce qu'ils savent qu'il s'agit d'une période limitée dans le temps de l'adolescence, et qui donc continuent d'aimer leur enfant adolescent, qui continuent d'investir dans leur vie, même si le jeune rejette toute leur initiative. Oui, il continue à l'aimer envers et contre tout, envers et contre lui-même, même parce qu'ils savent qu'un jour, la vérité de leur amour pour cet enfant éclatera au grand jour ou au grand cœur de leur enfant, qui une fois, on l'espère du moins, une fois devenu adulte, dira « Mes parents étaient ringards, mes parents étaient un peu nuls, mes parents étaient complètement incompétents, mais au moins, ils m'aimaient et ils m'aiment encore. » La vérité de l'amour révélé. De même, pour les chrétiens, cette pensée de la victoire de la vérité est cruciale et nous empêche de sombrer dans le pessimisme, dans le défaitisme ou encore dans le cynisme, ou encore dans le aquabonisme. Je ne sais pas si vous connaissez ce isme, c'est aquabon. Aquabonisme, moi, aquabon, on est foutu. Non, au contraire, puisque la vérité de Dieu va un jour éclater, je vais m'y lancer, je vais participer à la victoire et m'y engager jour après jour, parce que c'est elle qui va traverser ces jours qui sont les derniers. Et vous savez comment on appelle une vie qui s'attache à cette pensée de la victoire, de la vérité, une vie où l'on fait confiance? S'appelle la vie chrétienne, la vie du disciple. Une vie où l'on fait confiance, où l'on ne désespère pas dans ce monde qui n'est pas vraiment wonderful, n'en déplaise à Louis Armstrong, mais qui est entre les mains de Dieu, comme le sont nos vies. Que le Seigneur nous donne d'être fidèles dans ces jours qui sont les derniers et qui sont difficiles. Fidèles à celui qui nous a aimés le premier. Fidèles à celui qui nous dit qu'il a pour nous un avenir fait d'espérance. Fidèle par sa grâce et pour sa gloire. Amen.